Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Au sommaire de ce journal, clôture hier samedi à Lubumbashi de la conférence interprovinciale entre les provinces du Grand Katanga et du Grand Kasaï. Ces assises étaient placées sous le thème « L'exode rural et le développement des provinces ». Le gouverneur du Nord Kivu est en mission opérationnelle et d'itinérance dans le territoire de Beni depuis 3 jours. Le lieutenant général Constant Dima a visité certains axes routiers et localités de la région situées dans la zone dite « Triangle de la mort ». L'invité de ce journal est la présidente du mouvement « Rien sans les femmes » dans la province de la Tchopo. Claudine Bella s'est dit préoccupée par l'insécurité grandissante dans cette entité en général et particulièrement dans la ville de Kisangani. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les rideaux sont tombés hier samedi à Lubumbashi sur la conférence interprovinciale entre les provinces du Grand Katanga et celle du Grand Kasaï. Placée sous le thème « L'exode rural et le développement des provinces », les participants ont fait un certain nombre de recommandations. C'est après avoir analysé les causes et les conséquences des déplacements massifs des populations de l'espace Grand Kasaï vers les Grand Katanga. D'autres détails avec Jean Gandou.
Les recommandations ont été faites notamment pour lutter contre le déplacement massif des populations. C'est entre autres la duplication des centres économiques dans le Grand Kasaï, ce qui empêchera aux jeunes d'aller chercher mieux ailleurs. Il a été aussi demandé l'instauration du système de feuilles de route pour contrôler et identifier les voyageurs dans les deux sens et interdire ainsi tout voyage de personnes par camion et train marchandises. Le gouvernement est appelé à faciliter la création des entreprises pour offrir de l'emploi aux jeunes. La conférence a aussi demandé à l'État d'octroyer aux jeunes les zones minières d'exploitation artisanale. Et pour éviter les tensions, le gouvernement devrait tenir compte de l'équilibre géopolitique dans la nomination et les affectations des agences et cadres de l'administration publique. Et sur le plan sécuritaire, contrôler aussi les mouvements des policiers, dont plus de 700 sont irrégulièrement arrivés de l'espace Grand Kasaï et se trouvent présentement à Lubumbashi. Enfin, il est demandé aux deux communautés de vivre en harmonie dans le respect mutuel des us et coutumes, mais aussi de respecter la loi ainsi que les autorités légalement établies pour favoriser le vivre ensemble. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Dans ce même contexte, le président de la République appelle toutes les communautés au respect des lois et à la consolidation de la paix. Cet appel de Félix Tshisekedi a été fait lors de la clôture hier samedi à Lubumbashi de cette première table ronde interprovinciale. Le président de la République a aussi invité tous les Congolais à l'unité afin de préserver la solidarité et l'intégrité nationale. On écoute Félix Tshisekedi dans ce texte sélectionné par Jean Gandou.
Ce plaidoyer se veut en outre responsable dans la mesure où il invite chacun de nous au respect de son prochain, des us et coutumes, mais par-dessus tout au strict respect des lois de la République, à la non-perturbation de l'ordre public, notamment en ce qui a trait à l'installation des Congolaises et des Congolais sur toute l'étendue du territoire national, fondement de cette mixité et richesse culturelle d'antan tant vantée, et au respect des mesures visant à promouvoir, par exemple, la sécurité, en ce compris la sécurité routière. Enfin, cette adresse vient nous interpeller sur la puissance des mots et de leur responsabilité dans la construction d'un vivre ensemble et d'une identité que nous voulons renouveler pour un Congo meilleur. Puissent nos langues devenir de véritables vecteurs d'unité et non l'installation de barrières hostiles. Nous sommes un même peuple, une seule et même nation. Préservons notre unité, notre solidarité et notre intégrité nationale.
Félix Antoine Tshisekedi a aussi attiré l'attention des leaders politiques, des responsables religieux et des forces vives de la nation sur le rôle, l'air dévolu dans la construction de l'unité qui, d'après lui, est souvent sapée par les ambitions des uns et des autres. En Ituri, pendant ce temps, plus de 50 scouts venus de 5 territoires de la ville de Bunia s'engagent à lutter contre la désinformation qui accentue le cycle infernal des violences et des divisions dans cette province. Ils ont pris cet engagement samedi à l'issue de la toute première conférence provinciale du scoutisme. Au cours de cet atelier de 2 jours, les participants ont été sensibilisés à la culture de la paix et de vivre ensemble, mais aussi au nouveau mandat de la MONUSCO. Reportage Ezekiel Mouzalia.
Pendant 2 jours, les scouts venus des 4 coins de la province de l'Ituri étaient réunis à Bunia pour discuter des paix, cohabitation pacifique et gage d'un développement harmonieux de la province. Plusieurs orateurs se sont succédés pour des exposés qui allaient tous dans le même sens, à savoir amener les jeunes à lutter contre la désinformation répression qui accentue la haine entre les communautés et la MONUSCO. Certains s'expriment en ces termes.
On va vulgariser la population qui a toujours et à mémoire que la MONUSCO est en train d'armer les groupes armés.
Nous avons compris, la MONUSCO quittera le Congo si le gouvernement joue son rôle petit à petit.
Parlant précisément de la MONUSCO, le coordonnateur provincial du mouvement Scout a indiqué que la lutte contre la désinformation était un de leurs chevals de bataille, surtout en cette période où la population a besoin de vraies informations sur le rôle exact de la MONUSCO dans le cadre de la protection des civils. Pigeon François Kassereka.
Le scoutisme, c'est un mouvement d'encadrement des jeunes. Et quand les jeunes sont suffisamment informés, ils vont organiser des assises intercommunautaires pour que nous puissions contribuer à la restauration de la paix dans notre province.
C'est pourquoi le responsable de l'information publique de la MONUSCO en Ituri, Jean-Toby Okala, a été invité pour une présentation sur le plan de transition de la mission onusienne en RDC. Bounia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
Le gouverneur du Nord Kivu est en mission opérationnelle et d'itinérance dans le territoire de Beni depuis 3 jours. Le lieutenant-général Constant Dima a visité certains axes routiers et localités de la région situées dans la zone dite Triangle de la Mort. Martial Papimoukeba pour les détails.
Cette mission du gouverneur du Nord Kivu a débuté vendredi par l'axe routier Mbau Kamango, relié au secteur de Benimbau à la chefferie de Watalinga. Au point kilométrique 51 de cette route, le général Constant Dima s'est entretenu avec les commandants des troupes ougandaises déployées au Nord Kivu et en Ituri pour des opérations conjointes avec les FRDC contre les ADF. Les deux officiers militaires ont discuté de l'avancée de ces opérations. Le gouverneur du Nord Kivu s'est ensuite rendu à Kamango et Nobili, des localités touchées ces derniers mois par les attaques ADF. Sur place, il a appelé la population à soutenir les FRDC et l'UPDF dans la mission de rétablir la sécurité dans la région. Le samedi, le général Constant Dima s'est rendu à Eringeti et Kainama. Là, le génie militaire des FRDC est en train de réhabiliter une route de 48 km reliée à ces deux localités. Cette route d'importance sécuritaire qui permettra à l'armée une mobilité pendant les opérations contre les ADF ouvre également la voie à la province voisine de l'Ituri à partir de Boga dans les territoires d'Irumu. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Dans la province de la Tchopo, un jeune homme d'une vingtaine d'années a été abattu la nuit dernière à Kisangani, au point kilométrique 7 sur la route de l'aéroport, dans la commune de Kabondo. Selon des témoins, un militaire bien identifié a enserré l'auteur. Ce énième cas de sécurité vient s'ajouter à certains autres rapportés à la troisième semaine du mois d'avril dernier. Outre les vols en main armée à répétition, au moins 2 cambistes cambriolés, dont une fille, ont été blessés grièvement par balle en plein centre-ville. Des détails avec Jacques Moukonkolé.
Des témoins sur place déclarent que la victime a été surprise par une balle dans le dos tirée par un militaire alors qu'il rentrait chez lui à la cité Lupia. Il a succombé sous les coups. Témoignage du président des jeunes du quartier où les drames s'est produit. Un militaire vient de tuer un jeune homme. Ce militaire est l'un de ceux qui assurait la garde de la parcelle du général Padiri. Le commandant de la police urbaine de Kisangani dit avoir dépêché un de ses collaborateurs sur les lieux pour s'enquérir des circonstances et de l'identité probable de l'auteur de ce crime. Colonel Floribert Kingombe.
Oui, il y a cette mère qui a été abattue. Maintenant, on va chercher à savoir qui l'a effectivement causé la mort. On est en train de vérifier si c'est le militaire qui est de garde là-bas qui l'a vraiment abattu.
Toujours selon les commandants de la police urbaine, des militaires incontrôlés affectés dans les fermes de certains hauts gradés de l'armée dans la périphérie de la ville sur la route de l'Ituri insécurisent la population. Des réunions de sécurité sont projetées au courant de cette semaine en vue d'envisager des solutions idoines à ce sujet. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Kapi.
En Ituri, une nouvelle attaque de la milice Codeco a été signalée ce dimanche dans la localité de Sandoukou, à environ 85 km au nord de Bounia, dans le territoire de Djougou. Des sources sécuritaires dans la zone renseignent que ces miliciens ont pris pour cible une position de FARDC dans la zone, avec comme objectif de se ravitailler en munitions. Lors de l'échange des tirs entre les deux parties, 2 militaires sont morts, indique la société civile locale. Une information que l'armée n'a pas encore confirmée. Le point de la situation avec Ezekiel Muzalia.
Des violents combats ont opposé dimanche matin des militaires FARDC à un groupe de miliciens de la CODECO dans le village Tio, non loin de Sandoukou, dans le territoire de Djougou. Selon des sources locales, ces miliciens voulaient se ravitailler en armes et munitions. Lors de l'échange des tirs qui a duré environ une heure entre les deux parties, deux militaires ont été tués et leurs armes récupérées par les assaillants. Ce qui porte à trois, selon la société civile locale, le nombre de militaires tués et leurs armes emportées dans le même circonstance. En l'espace de deux jours. Des sources concordantes précisent qu'aussitôt alertés, les casques bleus népalais de la MONUSCO ainsi que les militaires des FARDC basés à Fataki sont venus repousser l'ennemi en tirant des coups de feu. Une situation qui a créé la panique dans la zone. Nous n'avons pas encore la réaction des FARDC ni de l'administrateur du territoire de Djougou à ce sujet. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Les musulmans sont appelés à être des artisans de paix selon le respect de la loi islamique. C'est le message que lance le représentant de la communauté islamique du Sud Kivu à l'occasion de la fin du Ramadan. L'imam Saleh Rajabou appelle les musulmans de Bukavu à la célébration ce lundi au stade de la Concorde de Kadutu pour glorifier Dieu mais aussi prier pour le pays. Il est dit au micro de Rachel Kessembangou.
Le musulman du monde entier depuis les 2 avril, ils ont observé une période de carême. Donc c'est pour se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, dimanche, le 1er mai, c'est la fin des 30 jours de carême que on a observé pendant 30 jours. Et demain, le 2 mai, c'est la fête, c'est ce que nous appelons Eid al-Fitr. Vous allez voir, les musulmans du monde entier vont se réunir dans différents endroits pour adorer, implorer Dieu le Tout-Puissant, les remercier d'avoir nous donné la force et puis la vie. Nous, ici, à Bukavu, serons dans le stade de la Concorde de Kadutu à partir de 7h30, en train d'adorer, d'implorer Dieu le Tout-Puissant. Nous allions aussi prier pour notre pays, pour les autorités du pays, surtout l'est du pays qui est vraiment attaqué, qui a l'insécurité à tous les niveaux. On a prié les bons dieux qu'ils puissent amener la paix dans notre pays, surtout à l'est du pays.
Les messages qu'on peut lancer aux musulmans de la RDC, particulièrement ceux du Sud Kivu, c'est la paix, l'amour, et puis la concorde.
À l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'enseignement le 30 avril, la Force syndicale nationale, un syndicat qui regroupe les enseignants ainsi que les travailleurs, plaide pour l'application du décret du Premier ministre qui crée les fonds de promotion de l'éducation et de la formation. Pour l'ingénieur Meliev Ndelo, secrétaire général adjoint de ce syndicat, l'application de ce décret permettra d'appuyer sensiblement la gratuité de l'éducation. On l'écoute au micro de Pierrot et Lamège.
Le ministre de l'EPS était clair au sujet du FPF dans son discours parce qu'il y a un décret effectivement du 24 novembre 2021 et il y a aussi notre protocole d'accord entre le banc syndical et le gouvernement de Mbola Lodjo qui donne effectivement la qualité et le droit au FPF de recourir aux ressources financières qui constituent des frais innovants pour appuyer la gratuité. Mais malheureusement, nous constatons l'inapplication de ces décrets-là du Premier ministre et c'est ici que je profite d'ailleurs de votre micro pour solliciter l'implication personnelle du chef du gouvernement afin que son décret, le décret du FPF, soit de strict application. Il y a des effets induits de la gratuité et il faut aussi se poser la question, comment pérenniser effectivement par exemple le projet Pas une école sans banc et pourtant le FPF a besoin d'assez de ressources pour atteindre le temps du territoire national en donnant des bancs dans les écoles. Comprenez-vous dans quel contexte nous sommes et la quintessence de ces projets-là.
Actualité internationale.
Au Rwanda, la famille de l'opposant Paul Rusesa Bagina porte plainte aux États-Unis. Condamné à une peine de 25 ans de prison qu'il purge actuellement, la famille de l'opposant attaque en justice le gouvernement aux États-Unis. C'est ce qu'elle a fait savoir hier samedi. Selon elle, le héros du film Hôtel Rwanda aurait été attiré dans un piège et son procès ne serait qu'un simulacre. En Guinée, 8 mois après le coup d'État contre Alpha Condé, le chef de la junte propose une transition de 39 mois. Dans un discours solennel à la Nation diffusé à la télévision nationale hier soir, le colonel Mamadi Doumbouya a annoncé un calendrier de transition. Le militaire au pouvoir souhaite que l'ordre constitutionnel soit rétabli d'ici 39 mois, soit un peu plus de 3 ans.
L'invité.
L'invitée de ce journal est la présidente du mouvement Réinstalle les femmes dans la province de la Tchopo. Claudine Bella s'est dit préoccupée par l'insécurité grandissante dans cette entité en général et particulièrement dans la ville de Kisangani. Elle s'entretient avec Jacques Moukonkolé.
Claudine Bella, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'organiser un atelier pour la mise en place des mécanismes de paix dans la province de la Tchopo. Quelle en est la justification?
Cette activité fait suite à celle qui a déjà été exécutée au mois de novembre et décembre. C'était la cartographie des initiatives et mécanismes de paix dans la province de la Tchopo. Les enquêteurs sont descendus sur terrain pour répertorier un peu les certains mécanismes de paix existants en province et voir combien de femmes y prennent part. Et c'est comme ça que, à l'issue de ces rapports-là, nous avions décidé maintenant d'élaborer une note de plaidoyer que nous allons déposer auprès des autorités pour qu'elles tiennent compte de la présence des femmes dans tous les mécanismes, dans toutes les initiatives de paix dans la province de la Tchopo en général et la ville de Kisangani en particulier. Parce que vous savez que plus les jours passent, plus la ville de Kisangani, la province de la Tchopo connaissent des cas d'insécurité. Et il faut vraiment trouver des solutions à ces problèmes-là.
Comment peut-on trouver des solutions à ces préoccupations, Claudine?
Comment on peut trouver des solutions? C'est en impliquant toutes les parties prenantes, y compris les femmes. Or, nous remarquons que dans la plupart des cas, lorsqu'il y a des négociations, lorsqu'il y a des forats ou des symposiums, des colloques où on parle des questions de paix, les femmes sont sous-représentées ou voire pas représentées même. Donc, c'est comme ça que le mouvement Rien sans les femmes a résolu d'impliquer les autorités dans sa lutte pour faire entendre la voix de la femme. Et c'est comme ça que nous allons organiser plusieurs activités dans le cadre du projet Tufaulu Pamoja pour pousser les autorités à prendre en compte la question des femmes dans leur politique, dans leur programme, dans leur projet.
Madame Claudine, quelles sont les activités prévues par votre mouvement RSF?
Au mois de novembre, nous avions formé les enquêteurs. Ils sont descendus sur le terrain pour récolter les données. Aujourd'hui, nous élaborons cette note de plaidoyer que nous allons valider maintenant en interne et la semaine prochaine, nous passerons auprès des autorités pour leur déposer cette note-là.
Et dans tout cela, quels sont les objectifs que vous poursuivez?
Les objectifs poursuivis en organisant cette activité, c'est d'inciter les dirigeants en général à prendre en compte la question des femmes. Je n'aime pas parler du genre, parce que quand on dit genre, c'est les masculins et les féminins. Qu'on prenne en compte la question des femmes dans tout ce qui est représentation provinciale, locale, nationale. Et donc, quand il y a des activités, des colloques, il y a des pourparlers, que les femmes aussi fassent partie.
Et à Kisangani, il y a beaucoup de cas d'insécurité qui sont déplorés ces derniers temps. Vous pensez que les femmes peuvent aussi apporter quelque chose pour éradiquer ces phénomènes?
Effectivement, c'est ce que nous allons mentionner d'abord dans notre note de plaidoyer. Et lorsque nous allons déposer cette note de plaidoyer auprès des autorités, nous allons encore échanger avec elles pour dégager les stratégies.
Claudine Bella, avez-vous des propositions concrètes pour éradiquer l'insécurité dans la ville de Kisangani?
Nous avons nos stratégies que je ne peux pas mettre maintenant à nu devant les médias, non. Ce sont nos stratégies en tant que femmes. Lorsque nous serons avec les autorités, nous allons échanger autour de ces stratégies-là et voir dans quelle mesure les femmes peuvent s'impliquer pour remettre un peu les choses sur les rails. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui à Kisangani, on ne l'a jamais vécu et ça nous dépasse alors. Il faut compter sur l'expertise féminine si vous voulez vraiment que la paix revienne dans la ville de Kisangani. Parce que ce qui cause la terreur dans la ville de Kisangani provient de nos familles. Et dans nos familles, on retrouve également des femmes. Ce sont nos enfants, ce sont nos maris, ce sont nos frères. Alors, en tant que femmes, nous avons tout intérêt à militer pour la restauration de la paix dans la ville de Kisangani. Parce que nous, les Sibissons, on ne peut pas comprendre qu'en pleine journée, on tire sur des paisibles citoyens comme ça. Et les personnes, les présumées auteurs se volatilisent dans la nature. Nos forces de l'ordre et de sécurité sont là. Mais il faut mettre des moyens à leur disposition pour traquer tous ces bandits. Alors, s'il n'y a pas de moyens qui sont mis à la disposition de la police et des services de sécurité, comment ils vont traquer? Et nous allons continuer ces plaidoyers, non seulement au niveau provincial, mais même au niveau national.
Madame Claudine Bella, merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de ce journal, la présidente du mouvement Rien sans les femmes dans la province de la Tchopo. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir écouté.